pense à ma jeunesse. Tu as dit tout à l'heure, c'est comme la miséricorde, je sais pas.
C'est ça.
Ah, en tout cas, bon, c'est difficile de rester assis pour moi, mais entre deux, je m'assirai. Voilà, c'est super que de se retrouver encore. Alors, salutations à tous ceux que je n'ai pas encore vus. Alors, qui n'était pas là cet après-midi, à part... Oh, il y a beaucoup de monde encore, voilà. Des gens que je ne connais pas, puis d'autres que je connais. En tout cas, est-ce qu'il faut me représenter? Oh, très vite. Pas utile, un petit peu. Alors, voilà. Moi, je m'appelle juste Hervé Guillois. Et vous avez vu, j'ai un prénom breton, quand même. Il y a un petit peu de la Bretagne chez moi, à cause de la mère, ma grand-mère maternelle, qui était bretonne. Je disais, elle s'appelait Trécherel. Voilà. Comme ça, c'est vraiment dans les orientations bretonnes. Donc, après, je suis marié, mon épouse s'appelle Chantal, et j'ai 4 enfants et 6 petits-enfants. Voilà, je suis un homme normal, comme tous les autres, et j'aime le rôle de papé. C'est le papé qu'on dit, mes petits-enfants m'appellent papé. Et papé, tu viens, on joue, et puis il faut toujours jouer avec eux à 4 pattes, et après, je ne peux plus me relever parce que j'ai le ventre trop lourd. Alors, il dit, papé, tu souffles, tu es fatigué. Je dis, ouais, ben, pour te suivre... Alors voilà, avec l'accent, tout ça, c'est super. Voilà, et puis, voilà, alors je ne suis pas souvent chez moi quand même, je suis plus souvent entre le ciel et la terre, quoi. Mais voilà, et puis dans beaucoup d'endroits différents. Mais Dieu m'a permis de voyager dans beaucoup de pays, beaucoup de nations pour aussi servir et manifester le royaume. Et je pense qu'un ministère prophétique, juste pour le rappeler, n'est pas quelqu'un qui s'introduit ministère. C'est reconnu du Saint-Esprit et de l'Église et des autres ministères qui reconnaissent en la personne le ministère prophétique. Mais on n'est pas avec, hein, c'est les choses qui arrivent après parce que Dieu nous fait grandir. Et puis, ce n'est pas les ministères quelque chose de figé. Le ministère évolue et se transforme. Quand je vois dans la Bible, Philippe, eh bien, il était diacre, puis après, il est évangéliste, puis après, il est devenu apôtre. Et quand tu vois beaucoup, tu dis, waouh. Avec Dieu, il n'y a rien de figé. Nous, les hommes, nous mettons des gens dans des cases, mais Dieu ne les met pas dans des cases. Voilà, il nous libère parce qu'il a des projets pour nous. Et c'est au fur et à mesure qu'on grandit qu'on découvre beaucoup de choses et qu'on peut prendre de l'assurance. Et ça, c'est très important. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé du Saint-Esprit hein, ces jours et c'est ce que je fais actuellement dans beaucoup d'églises parce que je pense... qu'il faut revenir aux choses. Il y a eu tellement d'abus ou de freins à cause des abus, beaucoup de choses qui n'étaient pas justes, puis qui étaient justes d'autres. Donc, on a tout mis dans le même panier, on a tout jeté à la mer. Et puis, on n'a pas essayé de garder. On dit, on jette le bébé et l'eau du bain, ça se dit comme ça. Et je pense que des fois, à cause de certaines choses, parce que je pense... que le peuple, souvent, a besoin d'être enseigné pour connaître les choses et d'apprendre. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas juste quelque chose pour faire chamallow, pardon de dire ça, mais je le fais exprès. En tout cas, on parle en langue, mais ce n'est pas ça qui fait de nous des gens remplis de l'Esprit. Mais c'est notre vie dans notre quotidien et dans notre église, mais aussi dans notre travail, mais aussi... partout où je suis, même sur le marché, hein, qu'on peut faire des courses, on peut être aussi rempli de l'esprit et parler. Moi, j'aimais beaucoup, dans le passé, que j'avais un peu plus de temps, d'être le samedi sur les marchés, parce qu'on vit de belles choses avec tous les camelots, les vendeurs, et on peut discuter avec tous ces gens. Et c'est un moment tellement libre où les gens peuvent parler. Et je pense que oui, partout, Dieu veut qu'on soit rempli de l'esprit. Et rempli de l'esprit, je vous dis, ce n'est pas juste les choses... charismatique dans le sens incroyable comme ça qui existe, mais c'est aussi dans le changement de nos vies, la transformation de notre être. Et le Saint-Esprit agit dans tous ces domaines-là aussi pour nous amener à devenir exactement comme lui. Et ça, c'est important. Et je crois que beaucoup d'entre nous, nous avons un peu cette connaissance basique du Saint-Esprit, en fait, telle qu'on nous l'a enseigné, mais on n'a pas essayé de rechercher... ou de lire la parole pour pouvoir arriver à comprendre qu'est-ce que l'Esprit me dit. J'ai dit cet après-midi que Dieu, dans Romains 12, 2, il renouvelait notre esprit, notre intelligence pour connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Et en fait, tout ce que Dieu dit est bon, agréable et parfait. C'est nous qui ne le comprenons pas toujours comme il faut. Mais si on a notre intelligence renouvelée, on peut commencer à vivre les choses de la vie de l'esprit qui vont nous amener à transformer la société, bouleverser notre Église, renverser des situations incroyables que Dieu veut faire. Peut-être j'ai un des exemples à vous citer qui m'est arrivé. J'étais dans une église, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, où il y a moitié charismatique, moitié non charismatique. Je ne sais pas comment le pasteur gérait tout ça, mais il était pasteur de cette église. Alors vous avez des gens contre le Saint-Esprit qui le montraient, puis voilà qu'il m'invite dans cette église. Et quand j'ai vu la tête de certaines personnes, j'ai dit, oh là là, ça va être ma fête. Et puis j'ai dit, après tout, je suis là pour parler de l'Esprit de Dieu. Et puis j'ai dit, on va voir. Mais j'avais quand même la trouille un peu. Mais Dieu, vous savez ce qu'il a fait? Il a parlé à des enfants, des jeunes de 12 à 14 ans, à peu près, l'adolescence. Et ils sont venus tout autour de moi, ils m'ont entouré. Et d'un seul coup, ils se sont mis à prophétiser. Et vous savez qui étaient ces enfants? C'est les enfants de ceux qui étaient non charismatiques et qui prophétisaient sur leurs parents. Ils prophétisaient sur tous ces gens qui étaient contre moi. Et j'ai dit, mais Dieu est tellement grand qu'il peut même, dans les endroits où nous, on a perdu pédale parce qu'on est impressionné par le regard de certains, eh bien Dieu va au-delà et il donne la solution. Et moi, j'ai trouvé ça magnifique. Et ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, mais tu es grand, mais tu es incroyable. Parce que là même où moi, je me sens faible, toi, tu es vraiment fort quand même. Et tu es doué quand même, Seigneur, hein, pour faire des choses comme celle-là. S'utiliser des propres enfants de ceux qui sont nos cœurs. Et ils n'ont pas pu rien dire après. Parce que tout ce qu'ils ont dit était la vérité. Et les gens pleuraient. Et les gens étaient bouleversés. Alors, il n'y avait plus de critiques. Alors, après, j'ai pu faire mon enseignement comme il fallait, puis rentrer dans le ministère que Dieu m'a donné. Mais regardez que Dieu a toujours des solutions à toutes choses. Et c'est ça, le Saint-Esprit. Il est là pour notre vie quotidienne. Dans tous les systèmes de notre vie, il veut nous apprendre. Et je crois que le fait... Et je vous l'ai dit tout à l'heure, que l'Église primitive connaissait moins de choses concernant le Saint-Esprit que la plupart d'entre nous aujourd'hui. Nous, on connaît tout d'un point de vue intellectuel. Vous avez remarqué, on sait que il est écrit que... Ah, ça, on l'entend. Oui, mais il est écrit. Et on justifie tout ce qu'on veut dire par « il est écrit ». Mais en fait, on ne vit pas ce qui est écrit. Alors, c'est quand même drôle. Alors, bien sûr, je ne viens pas en accusateur, mais... Ah, quand je vois la parole de Dieu, dans tout ce Nouveau Testament, les apôtres se laissaient diriger par l'Esprit et ils vivaient par sa puissance. Relisez la Bible. Et je disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a un autre Saint-Esprit ou est-ce que c'est le même? Bien sûr, vous n'allez pas me dire que ce n'est pas le même, parce que vous direz que c'est un blasphème. Donc, pourquoi vous ne vivez pas ce qu'il vivait, quoi? Et c'est ça qui est important. Un exemple que je vais vous citer, que les enfants vont bien aimer. Encore une histoire, ça va être super. Est-ce que tu t'es déjà demandé à quoi pensent les chenilles? T'as jamais fait ça. Qu'est-ce qu'une chenille peut penser dans sa tête? T'as jamais essayé de penser à ça. Moi, je suis très spécial. Je suis très artiste, alors je pense même que les chenilles pensent. Et qu'est-ce qu'elles peuvent penser, les chenilles? Et je pense que cette expérience devrait nous parler, je pense. Pendant toute sa vie, la chenille, vous savez, elle rampe sur le sol. T'as déjà vu une chenille, plein de boursouflures tout partout, des poils partout, puis en plus, ils sont urticaires, et tu vois toutes des choses bizarres. Tu les vois se tenir des processionnaires l'une derrière l'autre, mais c'est pas très joli à voir quand même, une chenille. Puis ça va manger le chou, la salade, et puis ça rampe partout, et puis tu te dis, mais quand même. Et puis d'un seul coup, tu t'imagines que les chenilles font une longue sieste, très longue sieste, et elles dorment pendant un long moment dans un truc qu'on appelle le cocon, puis elles dorment tout un temps. Puis d'un seul coup, elles se réveillent, et elles sortent du cocon, et qu'est-ce qu'elles peuvent penser quand avant elles rampaient, et d'un seul coup, il y a une aile qui sort plein de belles couleurs. T'as déjà vu un papillon? et puis l'autre aile qui sort. Et puis d'un seul coup, elle se dit, mais j'ai des ailes maintenant. Waouh, je vais pouvoir aller de nectar en nectar. T'as remarqué, la chenille, le papillon, il ne mange jamais plus de chou ni de salade. T'as vu? Plus jamais. Alors qu'avant, ils étaient dévorés, tout ça. Mais maintenant, ils vont chercher le nectar dans les meilleures fleurs. Alors, je pense qu'en tant que croyant, nous devrions être très surpris, en tout cas, de voir notre métamorphose. Nous sommes transformés. Je suis plus le même que j'étais avant. Je suis un autre homme. Je suis né à cette vie du ciel. Et puis, j'ai des ailes. C'est-à-dire que je peux aller dans des endroits et faire des choses que j'aurais jamais pu faire auparavant. Je peux aller vivre la puissance de Dieu avec toutes les belles couleurs qui en moi. Vous avez tous les uns et les autres des couleurs tellement différentes, quoi. Et vous avez reçu tellement de choses bien spécifiques que vous pouvez vivre des choses que le monde ne peut pas vivre. Et le monde va le reconnaître parce qu'ils vont dire, mais ces gens-là, ils sont incroyables. T'as vu, ils étaient comme nous avant. Regarde comment ils sont devenus. Pourquoi tout leur réussit? Vrai ou faux? Et c'est pas forcément toujours le cas. Alors on se pose des questions. Est-ce que vraiment tes ailes ont poussé? Ou est-ce que tu t'es pas rendu compte du changement qui s'est passé dans ta vie? T'es plus le même. Tu te rends compte? J'ai dit cet après-midi, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que je suis un autre personnage quand même. C'est Christ qui vit en moi. Donc les gens ne voient plus moi, ils voient Jésus quand ils me regardent. Et je pense que même avec ça, nos regards, notre comportement peut changer tellement de monde autour de nous. Tu te rends compte? Je l'ai raconté l'autre jour là-bas, mais je disais à l'autre côté de l'arène. Et l'autre jour, j'étais là, et puis j'étais dans une maison où le pasteur est médecin et sa femme est psy. Directeur d'hôpital psychiatrique. Voilà, c'est quand même des métiers. Ils sont pasteurs d'une église aussi, avec des autres anciens avec eux. Puis voilà, quand j'arrive, j'étais dans leur grande et belle maison, et puis on a appris un truc dehors, c'était au mois d'octobre, on était bien, il y avait encore le soleil dans le sud, hein. Et puis on a pu prendre un petit verre, et puis, bonjour Hervé, t'as fait bon voyage, comment ça va? Et tout, j'étais avec le mari, puis d'un seul coup, voilà la femme, mais qui est psy, mais souvent, quand elle arrivait, que j'allais dans leur église, elle avait un moral à zéro, quoi. Parce qu'elle avait vécu des grosses difficultés avec des gens à problème, quoi. Elle s'est même retrouvée une fois enfermée avec un malade. Elle n'avait pas prévu le coup. L'infirmier n'était pas là. Elle s'est retrouvée enfermée. Il a voulu la tuer, l'égorger. C'était fou, quoi. Alors, elle vit des choses très dures. Donc, quand je la voyais, elle avait toujours le moral à zéro. Et vraiment, elle ne me remettait pas des ailes à mon papillon. Elle me mettait au plus bas. Je dis, oh là là, si c'est ça, on est mal parti, quoi. Et puis, cette fois-là, elle commence encore à raconter et d'un seul coup, ce regard croise mon regard. Je vous promets, j'ai rien aux yeux de spécial. Mais quand elle a vu mon regard, celle qui l'a témoigné, d'un seul coup, elle a vécu une guérison et une délivrance. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a dans tes yeux? Alors j'ai frotté mes yeux, je dis, j'ai rien dans mes yeux. Elle dit, si, j'ai pas vu toi, j'ai vu autre chose, mais c'est incroyable. Et elle a vécu une délivrance juste en me regardant. Alors j'ai dit, ça alors, Seigneur, même avec mes yeux, c'est incroyable. Et pas parce que je suis meilleur, mais comprenez, c'est comme vous êtes une autre personne. Et l'Esprit de Dieu est en vous. Ça veut dire que votre comportement vis-à-vis de la société va être complètement différent et que vous pouvez changer la société. Et cette femme, après ça, depuis ce temps-là, elle m'a réécrit, elle me dit, mais je vais toujours bien, je ne suis même plus chargée de mon boulot. Et elle fait le même boulot, mais elle vit plus dans l'angoisse, quoi. Elle dit, je vais mourir, ils vont me tuer, mais c'est horrible quand t'es directeur de vivre ça. Tu dis, presque ils ont besoin aussi de passer une cure là-bas, à l'hôpital à leur tour. Mais en fait, la puissance de Dieu, si l'Esprit de Dieu habite en nous, il veut nous changer, nous transformer pour ne plus ramper comme des chenilles, mais vivre comme un papillon. Je ne sais pas si ça vous plaît de ramper sur la terre comme des chenilles, d'être juste celui qui se fait taper tout le temps sur le dos, celui qui subit la vie, ou alors vous n'êtes pas celui qui peut vivre les choses du ciel, le royaume de Dieu, que j'ai dit tout à l'heure du Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que je ne peux pas vivre le ciel sur la terre? C'est-à-dire, ça paraît tellement facile, mais pourtant c'est si facile. Peut-être qu'on est trop compliqué, quoi, à essayer d'examiner, d'analyser tellement de choses que finalement on passe à côté de l'essentiel. Alors qu'il dit que le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent à des enfants. Alors, on ne peut pas le faire en équation, ce truc-là. C'est impossible. Même le plus petit peut se servir. Vous avez vu, si quelques enfants autour de moi, Dieu les a utilisés alors qu'ils n'étaient pas enseignés là, parce qu'en fait, leurs parents n'en voulaient pas. Donc, ils ne savaient même pas ce que c'était. Et pourtant, Dieu l'a fait. Tu te dis, mais Dieu est tellement grand. Moi, je crois que, oui, je n'ai pas envie de ramper, je crois. Arrêtez de continuer de ramper alors que vous avez tous la capacité de voler, quoi. Pas comme ça, hein, mais voler comme ça. Rendez-vous compte. Et je crois qu'on ne prend pas vraiment conscience d'une réalité qui existe, de ce que Christ vit en moi et que son esprit est avec nous jusqu'à la fin. Il dit, je vous enverrai mon esprit, il sera avec vous tous les jours jusqu'à mon retour. Et quand il enlèvera son église, l'esprit partira. Je ne vous dis pas ce que ça va être sur la terre. Ça ne va pas être facile à vivre. Déjà aujourd'hui, il y a beaucoup de combats. Vous savez que le coronavirus-19, il est arrivé à Rennes, hein. Vous ne savez pas, j'ai eu la nouvelle tout à l'heure. Alors, c'est fou. Donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que le peuple de Dieu va faire pour combattre? Pour que ces choses disparaissent, quoi. Et c'est incroyable. Et je crois que là, Dieu nous attend. Hein. Il nous met au pied du mur de beaucoup de choses, quoi. Qu'est-ce qu'on va agir? Comment on va faire? Est-ce qu'on va critiquer ou est-ce qu'on va rentrer dans ce que Dieu a préparé d'avance? C'est incroyable. Vous regarderez aux informations, vous verrez, je ne me suis pas trompé. Mais c'est incroyable de voir comment Dieu veut faire avec nous. Et pourtant, des fois, il y a des craintes dans nos cœurs. Et je dis ça, et je vais l'expliquer, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans la peur et la crainte. Tout à l'heure, elle est là, elle a chanté, elle n'a pas osé aller jusqu'au bout. Tu chantais en langue, il y avait quelque chose de l'esprit, et tu as très vite ravalé la totalité. Et alors moi, je lui dis ça parce que, voilà, je l'aime beaucoup et je la connais depuis peu, mais je crois qu'il faut la bousculer un petit peu. Mais tu te rends compte, tu reçois et il y a des peurs qui viennent, quoi. La panique, et puis si jamais, puis si c'était pas. On vit toujours sous une épée de Damoclès, comme si ça allait nous tomber dessus. Mais on est des gens réellement libres, quoi. Moi, je crois, en tout cas. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fois... On vit ces craintes, on vit des fois ces moments difficiles. La peur du rejet m'a déjà paralysé. Je vais vous expliquer, je vous promets. Moi aussi, je suis expérimenté, pourtant dans le sens où Dieu m'a utilisé, quand je dis expérimenté, pas que je suis un professionnel, mais comprenez les choses. Je veux dire par là que Dieu m'a utilisé et pourtant, quand je me retrouve face à des gens avec de hautes responsabilités. Eh bien, ça fait peur quand même, quand vous n'avez pas l'éducation. J'ai raconté tout à l'heure de M. Chirac, mais il y a aussi le ministre de la Francophonie en France. Il y a beaucoup de gens comme ça où Dieu me demande d'aller leur parler et moi, je panique à l'intérieur de moi parce que je dis, ces hommes, ils sont talentueux, ils vont me... détruire en 2 minutes en me disant une belle parole bien scientifique que je ne vais pas comprendre. Et puis moi, je suis lessivé. Et pourtant, Dieu se sert de ça. Et Dieu, il a vraiment des solutions à tout. Il dit, Hervé, tu n'es pas encore bien dans ton cœur, hein, tu vas voir. Et pendant des vacances, je suis allé dans une église, East. Voilà. Et puis, en fait... j'allais là parce qu'il n'y en avait pas d'autres à cet endroit-là. Donc, je suis allé là. Et puis, j'ai rien contre eux, hein, pas de problème. Et puis, c'est des gens de l'esprit aussi. Et puis, on était là. Et puis, d'un seul coup, Dieu me parle pour eux. Je dis, non, Seigneur, tu te rends compte? Ils ne vont jamais vouloir que je donne une parole. Ça ne se dit pas dans cette église-là. Tu sais comment ils sont. Ils ont juste leurs gens à eux. Mais si tu viens et que tu commences à perturber ça, je vais me faire ratatiner, Seigneur. Je dis non, 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 non. Je veux que tu leur parles. Je dis non, 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 Seigneur. J'ai compris à Dieu pendant toute la louange. Et j'écoutais plus la louange. J'ai dit, Seigneur, écoute. Si c'est ta volonté, fais que le pasteur dise s'il y a quelqu'un qui a reçu une parole, qu'il le dise. Ah là là, finis la louange, il se lève. Si quelqu'un a reçu une parole, qu'il le dise. Oh, je dis non, Seigneur. Pourquoi tu m'as fait ça à moi? Je sais qu'il dit jamais des choses comme ça, cet homme. Mais pourquoi? Alors Dieu me confirmait ce que je lui avais demandé. Puis je me retrouve là et je dis, oh, en homme très soumis et connaissant un peu l'état d'esprit, je vais vite le soumettre au pasteur d'abord. Et le pasteur, il attend même pas que j'ai tout dit. Il dit, vas-y. Je dis, waouh. Je dis, me fais confiance alors qu'il me connaît pas. Et moi, j'avais si peur de la réaction. Et puis j'ai commencé à parler. Et d'un seul coup, il se lève, un grand silence. Il dit, je ne connais pas ce monsieur, mais il vient de nous donner la réponse qu'on jeûne et qu'on prie depuis des mois. C'est la réponse à notre prière, exactement. Alors, il a dit ça, il a reconnu ça devant tout le monde. Et il a reconnu qu'il ne me connaît pas et que je ne venais pas du tout de ce mouvement. Et des fois, on fait tellement de ségrégation, voilà, tu n'es pas de là, tu n'as pas le droit. Mais là, je vous promets, la peur m'avait tenu à l'intérieur, mais Dieu, quand il a décidé, quoi. Et c'est d'arriver à lui faire confiance, qu'importe le climat, qu'importe ce qui peut se produire. Lui est plus grand que cela, vous voyez. Et je crois que des fois, on retient, c'est pour ça que j'en parle aussi, parce que, en fait, on retient les choses de la peur de ce qu'il peut, comment ça va être reçu, comment ça va être pris. Alors, on préfère se taire. Et là, on offense Dieu, parce qu'il dit, je t'ai parlé, t'as rien dit, quoi. Quelle histoire, quoi. Alors après, je prends des leçons, quoi. Moi, ça m'est arrivé. Mais Dieu n'a jamais perdu. Tout le temps, il sait me ramener là où il a décidé, quoi. Parce qu'il a décidé comme ça, il sait comme ça. C'est lui qui est Seigneur, quoi. Alors, j'appris tout le temps comme ça. Et je pense que nous sommes appelés. Bien sûr que la crainte est naturelle, même qu'elle n'est pas juste, mais elle est naturelle dans nos vies en tant qu'être humain. Mais je crois que nous sommes appelés à calquer notre vie sur le modèle biblique, mais pas sur ce que je sens ou ce que je ressens pas, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a tant de difficultés et de combats. Parce que les gens agissent parce qu'ils sentent ou ils ne sentent pas. Mais ce n'est pas la peine de sentir. Si l'Esprit te parle, il te parle, point. Alors, tu n'as pas à ressentir quelque chose ou pas. Il faut être juste prêt à être un instrument de bénédiction pour manifester le royaume. Et je pense que c'est comme ça que ça marche. Je crois que Jésus a vaincu nos peurs à la croix. Il a triomphé de nos peurs. Il a été vainqueur. Pourquoi j'ai encore peur aujourd'hui alors que je suis enfant de Dieu et que Dieu m'a donné un ministère qui est même reconnu? C'est terrible, ça. Ça va mieux maintenant, hein? Mais vous voyez, des fois, on a des rejets dans nous, ou des choses qui viennent d'un seul coup, et comme si Dieu dit, t'as pas tout guéri, là. Et là, je veux que tu triomphes. Je veux, si tu dis que je suis plus grand et que j'habite en toi, vas-y, quoi. Alors, je crois, des fois, voilà, on est impressionné, mais je crois qu'il faut vraiment calquer nos vies sur le Seigneur et sur la parole. Qu'est-ce qu'elle dit? Ne crains pas, n'aie pas peur. Je suis avec toi tous les jours. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas. Mais combien de gens sont tombés dans la crainte et la peur par rapport à des événements, des circonstances même, qui sont purement naturelles? Quand il y a des épreuves très dures, on a tendance à baisser les bras et puis à dire « mais c'est terrible ce qui m'arrive ». Et puis on commence à confesser le négatif. Alors que Dieu veut qu'on apprenne à lui faire confiance. Mais c'est vrai qu'il y a des vallées de l'ombre de la mort. C'est vrai que des fois nous passons par des endroits comme ça. Mais c'est vrai. Mais pourquoi Dieu veut ça? Pourquoi il permet ça? Parce qu'il a envie qu'on apprenne à lui faire confiance. En toute situation et tout moment. Mais c'est pas facile. Et je vous promets que tout n'est pas facile pour tout le monde. Même pour un type comme moi, quoi, qui vous paraît très à l'aise comme ça. Mais combien des fois de combats, combien de fois de difficultés, et pourtant Dieu veut que je triomphe de tout ça. et que je gagne, quoi, avec lui, parce qu'il a gagné. Et je pense que Dieu veut nous apprendre quelque chose là, oui, là. Et je pense que il faut refuser nos peurs, l'opinion des autres, peur d'être rejeté. Oui, chercher la vérité sur le Saint-Esprit. Et alors Dieu nous conduira dans la vérité parfaite. Qu'est-ce qu'il dit pour ma vie? C'est lui qui est important. Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Qu'importe ce que le monde pense de moi, mais qu'est-ce que lui pense de moi? Moi, j'aime mieux être rejeté par les hommes maintenant que par lui. Hein, parce que le jour où il serait rejeté par lui, je crois qu'il n'y a plus de retour possible. Alors, vous savez, c'est bien ce qui va se passer à la fin des temps. Toi, je ne te commets pas, mais j'ai prophétisé en ton nom. Ouais, toi qui commets l'iniquité. Mais c'est terrible. Quand tu lis la Bible, waouh! Et pourtant, c'est la vérité, quoi. Alors, je crois que Dieu veut nous apprendre quelque chose, hein, au travers de tout ça. Et je crois qu'il faut vraiment être à l'écoute de Dieu. Êtes-vous prêt à poursuivre la vérité afin de connaître et d'être connu du Saint-Esprit? Est-ce que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout? Prêt à aller jusqu'au bout dans ce chemin qui n'est pas toujours facile. Il y a aussi, il n'y a pas que les pétales de rose, il y a aussi les épines. Pour ceux qui ont des années, ils savent qu'il y a des épines le long du chemin. Oh là là, il n'y en a pas. Avez-vous suffisamment d'humilité aussi, peut-être, ou ouvert à la possibilité que, peut-être, vous aviez tort dans votre compréhension de l'esprit? Est-ce que vous êtes prêt à reconnaître ça devant Dieu? C'est des grandes questions, hein. Ça remet plein de choses en question parce que tu te dis, oh là là, est-ce qu'on est prêt à ça? Et souvent, je disais tout à l'heure, on veut défendre un peu ou exprimer notre désaccord en s'appuyant sur des passages bibliques, des arguments, oui, qui défendent notre thèse pour expliquer cela. Mais le Seigneur veut nous apprendre à dépendre de lui. Et on n'a rien à expliquer, tu n'as rien à prouver. Jésus passait au milieu et puis disait bye bye au milieu des grands religieux qui, bon voilà, mais c'est une vérité quoi, les pharisiens, mais tu disais, ah, le Seigneur veut nous apprendre à dépendre du Saint-Esprit. Est-ce que ça serait peut-être bien que vous pourriez relire la Bible avec un nouveau regard? Est-ce que l'on pourrait relire cette Bible avec ce nouveau regard comme quelqu'un qui découvre les textes pour la première fois? Tout remettre à plat. Dire, Seigneur, tout ce que j'ai appris, je le dépose. Maintenant, relis la Bible ensemble et parle-moi. Mais peut-être vous allez découvrir des choses que vous n'avez jamais découvertes. J'en suis convaincu. En tout cas, ça a été comme ça pour moi. Et je pense que c'est juste. Et je pense que Dieu veut nous apprendre cela. Ne plus se laisser emprisonner de la théologie qu'on nous a enseignée dans toutes nos dénominations. Cherchez Dieu à propos de son esprit et laissez-le guider votre vie comme il veut. Lui obéir. Qu'est-ce que Dieu va me dire demain matin en lisant ma Bible? Qu'est-ce qu'il va me dire peut-être dans cet enseignement que je vais recevoir? Qu'est-ce que je vais pouvoir glaner? Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre pour que ma vie soit changée? Waouh, ça fait beaucoup, n'est-ce pas? Et je pense que Dieu veut ça. Je crois que nous demandons moins et nous nous attendons à moins. Et nous sommes satisfaits avec moins. Vrai ou faux? Parce que nous avons peur de demander ou d'attendre plus. C'est une sacrée phrase que j'ai dit là. Hein. Vous voulez que je vous la répète? Je l'ai écrit, je vais vous la redire. Nous demandons moins et nous nous attendons à moins. Nous sommes satisfaits avec moins parce que nous avons peur de demander ou d'attendre plus. Et je crois que c'est ça qu'on a peur. Et si l'esprit me montre des choses que je fais qui ne sont pas justes, ou si l'esprit me reprend, terrible ça, hein. Et je crois que Dieu veut vraiment nous apprendre à cela, et on a peur, hein. Et je crois que le Seigneur veut nous appliquer plutôt à croire aux promesses de Dieu, à lui soumettre nos peurs, à nous abandonner totalement à l'œuvre et à la volonté de Dieu, le Saint-Esprit. Nous abandonner totalement. Et je te promets que tu vas vivre des exploits. Et tu vas faire des choses vraiment spéciales. Tu vas guérir des malades, tu vas... Je vous en raconte une, je parle de guérir les malades, et ça me vient une chose que j'ai vécue. J'étais dans une église où il fallait monter des escaliers pour aller à l'église. Ce n'était pas en bas, mais il y avait beaucoup d'escaliers grands. C'était long et il fallait monter ça. Et puis, bon, qu'importe, c'était là-haut. Puis tout le monde était là-haut. Et puis, d'un seul coup, il y avait une femme dans cette église qui avait une toute petite jambe qui ne s'est pas développée, vous savez, là. Et puis, elle marchait toujours sur une main par terre, et puis comme ça, quoi, elle marquait sur une jambe et une main, quoi, la jambe qui était faite, et puis sa main de l'autre côté. Puis elle montait les escaliers comme ça, et puis elle allait faire ses courses comme ça, et puis elle vivait avec ça, quoi. Puis elle était chrétienne, elle aimait Jésus, puis elle était toujours comme ça, et son pied était en entier, mais tout petit, quoi, et sa jambe n'a pas poussé. C'était un accident, je ne sais pas comment on dit. Et puis, d'un seul coup, je la regarde, et je dis, oh, je crois que Dieu va faire repousser ta jambe. Bon, alors quand c'est un tout petit peu, on ne le voit pas, mais enfin, si on se trompe, il n'y a pas de problème. Mais là, c'était toute la grandeur. Elle avait plus de 30 ans, donc elle était adulte, quoi. Et il y avait tout à pousser, quoi. Alors je lui dis, assis-toi. Alors elle s'assit, et puis je dis aux autres à côté, asseyez-vous, il faut mieux. Et il me dit, non, non, nous on regarde, on va rester debout. Oh, je dis, pas de problème, comme vous voulez. Puis la femme était assise, et je ne sais pas si les gens croyaient ou pas, je me demande quand même. Et moi, je ne sais pas si je croyais ou pas, mais en tout cas, j'ai dit à la jambe, repousse, juste ça. Et la jambe, elle a fait comme ça, puis d'un seul coup, elle poussait, puis d'un seul coup, elle est devenue exactement comme l'autre. Je dis, wow ! Et là, tous ceux qui étaient debout, paf, par terre, par la puissance de l'esprit. Tellement c'était fort. Vous vous rappelez, au tombeau, quand Jésus est sorti, ils sont tous tombés, les soldats. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Sous la puissance de Dieu, on ne peut pas tenir. Hein. Alors, il n'y avait plus que moi debout. La fille qui a vu ça, elle était choquée de ce qui lui arrivait. Elle n'avait jamais vu sa deuxième jambe, quoi. Et c'est la première fois de sa vie. Alors, j'ai dit, mets-toi debout. Elle n'arrivait pas, elle ne comprenait pas. J'ai dit, mets-toi debout. Attends, je vais prier pour que ça chante dans ta tête. T'es tellement habitué à marcher comme ça. Et d'un seul coup, je la voyais regarder les marches, me regarder, regarder les marches. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle a dans sa tête? Et là, elle a descendu les marches. 5 fois, 10 fois. Elle montait, elle descendait. J'ai dit, arrête. Mais elle dit, vous pouvez pas comprendre. J'ai jamais fait ça de ma vie. Mais écoutez, c'est important pour moi. Alors j'ai dit, ça. Et après, vous savez, Dieu fait des miracles, mais c'est toujours dans un but bien précis. C'est pas juste comme ça. Vous savez, souvent nous on demande des miracles, mais est-ce que Dieu le veut vraiment? Et là, cette femme, elle avait fait tous les commerces, tous les gens du village le connaissaient. Elle savait qu'elle marchait comme ça. Tout le monde avait une espèce de pitié d'elle, quelque part. Mais on n'en avait rien à faire de son handicap, en fait, tellement. Mais voilà, nous on est bien, elle est malade, mais c'est pas grave. Et en fait, quand elle est allée dans tous les magasins, elle est allée au boulanger, donnez-moi du pain. Et il a regardé tout drôle. Mais c'est moi, vous ne me reconnaissez pas. Non, ce n'est pas vous. Si, c'est moi. Non, non, ce n'est pas vous. C'était impossible. Cette femme qui était avec une pied, puis d'un seul coup, elle a les deux jambes. Alors, tous les gens de tous les magasins, elle est allée partout. Et elle a couru. Elle courait. Elle n'arrêtait plus de courir tellement c'était magnifique pour elle. Nous, on ne se rend même pas compte qu'on a deux jambes, mais c'est vraiment magnifique, je crois. Hein. On est bien foutu quand même. Hein. Tu te rends compte? Alors, c'est là qu'on se rend compte. Et puis, tu te dis, mais cette femme, elle a touché tout le village, quoi. En quelques secondes, tout le monde a été bouleversé. Mais pourquoi? Ce n'est pas notre théologie qui a changé ça. C'est l'Esprit qui a fait vivifier la parole de Dieu et qui a commencé à vivre ce que Dieu nous dit dans la parole, tout simplement. Et juste parce que Dieu voulait qu'elle soit guérie, cette fille. Pourquoi il ne l'a pas fait avant, j'en sais rien. Mais en tout cas, il l'a fait là. Pourquoi je lui ai dit là? Après, quand j'ai vu l'histoire, j'ai dit, oh là, je suis vraiment un peu gonflé quand même, quoi. Mais Dieu avait décidé. Et moi, je dis, c'est incroyable, quoi. Comment Dieu peut nous utiliser? C'est vraiment super, n'est-ce pas? Et je crois que, arrêtons de demander des fois des miracles et des guérisons si Dieu ne le veut pas, quoi. Et souvent, des fois, hein, on est vraiment spécial quand même. Je crois, Jacques en parle hein, dans l'épître de Jacques, il dit « Vous ne recevez pas parce que vous demandez pour satisfaire vos passions. » Et des fois, moi, j'ai vu des gens prier « Au nom de Jésus ! Au nom de Jésus !» Et j'ai dit à une femme dans une église « Arrête ! Dieu n'a rien demandé pour ça. Pourquoi tu fais ça ?» Mais parce qu'elle a voulu être satisfaite, elle pensait qu'en priant comme ça, mais c'était bon. Mais c'est pas bon du tout. Qu'est-ce que Dieu voulait à ce moment-là, quoi? Je crois que Dieu est souverain, mais on ne pense pas. Et on a besoin de lui pour se laisser guider par l'Esprit. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Pourquoi cette femme aujourd'hui, puis pas un autre ou une autre? Parce que Dieu savait que son nom allait être glorifié dans tout le village avec elle. Il connaît nos cœurs, il connaît nos esprits. Et c'est drôlement important. Donc moi, je pense que ça, c'est important. Ah, peut-être un autre témoignage pour les enfants. Puis après, il va être fatigué, le pauvre Coco. Il va dire, il m'a dit tout à l'heure, c'est bien ce que tu dis, mais tu parles beaucoup. Hein. Parole vient de la parole des enfants. Voilà, voilà. Je suis fatigué. Bon, je ne vais pas tarder à arrêter de parler. Je raconte juste un dernier témoignage. Puis voilà. Vous savez, vivre avec Dieu, quand il dit, et j'ai parlé tout à l'heure, Marc 16, quand même, il y a, vous guérirez les malades, vous chasserez les démons, puis vous ressusciterez les morts. C'est quand même dit tout ça clairement dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alors, combien de morts vous avez ressuscités? Des fois, on n'ose plus regarder en face. On regarde en bas. Bon, pas trop, pas du tout, quoi. Et pourtant, Dieu a dit ça. Pourquoi on accepte que les gens sont pardonnés des péchés alors qu'on n'a rien vu? Bien sûr, mais leur comportement ne change pas tout de suite, n'est-ce pas? Et là, on est convaincu, mais on ne le voit pas, que l'Esprit a agi, sincèrement. On a une grande confiance au Seigneur. Alors pourquoi on n'a pas confiance pour le reste, au Saint-Esprit? Grande question, hein. Je remets beaucoup de choses en question. Mais, alors j'ai quand même raconté mon témoignage de la résurrection. J'ai vécu première résurrection que j'ai vécue. Il faut apprendre avec toute chose. Pour les enfants, c'est intéressant. Voilà, mon fils avait 2-3 ans, il était petit, Étienne, le dernier, Étienne, Jonathan, là, voilà, comme, voilà. Et puis, j'ai dit à un qui s'appelait comme lui. Alors, en fait, voilà qu'un oiseau se frappe sur la vitre, puis tombe par terre, il est mort. Mais mon fils, à l'âge de 2-3 ans, là, pourquoi? C'est pas juste, c'est pas normal que l'oiseau soit mort. Et il me rouspétait, mais je dis, j'y peux rien, moi. Maman, elle a fait trop bien les carreaux, maintenant, tu vois. Alors, je dis, bon, on essaie toujours de... Voilà, ça, c'est l'homme. Mais c'est comme ça, voilà, c'est toujours la faute. Ça a toujours été, sauf, voilà. Faut pas... Bon, bref, il faut réchanger quand même un peu. Et puis, bref, toujours est-il, j'ai dit, mais... Et je regarde, je prends l'oiseau, et en fait, il est vraiment mort, quoi. Et là, j'ai dit à mon fils, on va prier pour lui, il va ressusciter. Oh, mais alors, il ne faut pas tromper un enfant. Hein. C'est des enfants. Un adulte, il va passer parce qu'il dira, bon, il a dit ça, c'est pas... Mais là, un enfant, vous lui dites ça, il veut absolument voir si c'est vrai, quoi. Alors, la peur que j'avais, j'ai dit à mon fils, prie-toi. Ça, si ça ne marche pas, je dirais, mais t'inquiète pas, ça va aller, quoi. Et Dieu me dit, toi, avec lui. « Oh non, Seigneur !» Bon, alors on met l'oiseau dans la main et on prie tous les deux. Et mon fils, il dit, voir comme ça, « C'est pas juste, Seigneur, qu'il soit mort, redonne-lui la vie. » D'un seul coup, les pattes qui commencent à gratter dans ma main. Waouh ! Alors ma foi, elle grandit d'un coup. Et puis, je dis, « Waouh ! Il est vivant !» Mon fils, il était tout fou, quoi. « Ah, papa, super, on va lui faire une cage, on va le mettre dans la maison. » Et puis voilà, je dis, « Non, 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 non !» Je dis, « Si Dieu lui a donné... » La vie, c'est qu'il faut lui rendre sa liberté. C'est une belle mésange, c'est joli une mésange. Hein. Une belle couleur, il y en a aussi par ici. Hein. C'est tellement joli, moi j'aime beaucoup. Et ça vient tout près des maisons pour manger des graines, hein. C'est extra. Et puis, voilà, ça c'est juste parce que je suis assez poétique aussi, voilà. Et puis, en même temps, mais c'est vrai, en même temps l'oiseau... Alors j'ai dit, écoute, on va le lâcher. On dit, mais papa, non. Mais je dis, si. Et on l'a lâché sur le balcon ensemble, comme ça. L'oiseau, vous savez ce qu'il a fait? 3 fois le tour au-dessus de nous, et il bougeait comme ça. Comme s'il nous remerciait de lui avoir redonné la vie. En tout cas, moi, je l'ai décrit comme ça, comme un enfant, quoi, voilà. Et puis j'ai dit, waouh! Et mon fils était heureux parce qu'il l'a remercié. Il dit, t'as vu, papa? Je dis, oui, j'ai vu comme toi, c'est formidable, quoi. Et c'est merveilleux. Ça, c'est première résurrection. Bon, il faut démarrer avec des animaux. Au moins, ils ne vont pas se rebeller après vous. Voilà. L'autre jour, j'avais dit ça à des enfants. Il y a eu un chat qui était mal. Ils ont prié pour le chat. Et puis, il n'est pas revenu. Alors, ils n'étaient pas contents après moi. Mais je dis, c'est pas moi qui donne, c'est Jésus. Écoute, non, il faut que tu fasses confiance. Voilà. Bref, Ça, c'était la première résurrection, il fallait. Puis il y a eu un autre oiseau aussi, encore une autre fois. Et puis après, ben voilà, le Seigneur, il a dit, Hervé, maintenant, on passe à un niveau supérieur, quoi. J'ai dit, oh là 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 là. Voilà. Et ce sera ma dernière histoire. Hein. Reynard Bonquet arrive en France. Vous connaissez Reynard Bonquet, c'est un évangéliste super. Avec une onction, il vécu des guérisons, des choses super. Des fois, on a, pas des idoles, mais des gens à qui qu'on aime et puis qu'on voudrait ressembler. Et on a des références. Et moi, j'aimais bien Reynard Bonquet. Il vient en France, je dis, ouais, jamais je le reverrai, je vais le voir. Et j'ai fait tout mon trajet pour aller le voir. Et puis j'arrive où il est, et puis c'était super, il y avait beaucoup de monde. Quand Reynard Bonquet prêche, tout le monde, il est là, et tout le monde veut qu'on prie pour eux. Ça, c'est, voilà. Et puis, donc, il arrive, il commence à parler, et il dit une chose qui m'a, comme s'il m'a envoyé une claque en pleine figure. Il dit, en France, vous êtes tellement incrédule que Jésus ne peut pas faire de miracle. Oh, purée! C'est comme s'il venait de m'envoyer une claque. Je dis, oh non! Pourquoi il a dit ça? Là, il redescendait dans mon estime. Je dis, oh non, il est dur. Puis après, il parle. Et puis, ils font un appel pour que ceux qui sont malades descendent. J'ai jamais vu autant de gens descendre. Mais avant ça, il demande à des noms de personnes pour venir pour prier avec lui. Et ils ont demandé à 40 personnes. Mais moi, personne ne me connaissait là. Personne ne savait que j'étais là. Donc, il n'y avait aucune raison qu'il m'appelle. D'un seul coup, j'entends Hervé Guillois. Je n'ai pas cru. Je me suis retourné derrière, il y avait une dame. Je dis, quel nom il a dit? Il a dit Hervé Guillois. Mais je dis, c'est moi? Alors elle dit, il faut que vous y alliez. Je dis, oh non! Et au moment où ils ont dit ça, je dis, mais personne ne me connaît. Comment ils peuvent me faire confiance d'aller prier? Mais moi, c'était mon désir. J'avais dit à Dieu, je voudrais prier à côté de Reynard Bonquet. Je voudrais être tellement à côté de lui pour voir comment il fait bénéficier de son onction. On est beaucoup comme ça, hein. Et puis, voilà. Et au moment où ils m'ont appelé, une onction très forte est descendue sur moi. Les poils de mes mains se dressaient, l'électricité tout autour de moi, mais impressionnant, physique. Hein. Puis je commence à descendre, puis je regarde des gens comme ça en passant, et les gens que je regardais avec mes yeux, ils tombent par terre. Je dis « Wow, qu'est-ce qui se passe ?» Puis il y avait un homme, j'aime le raconter, c'était le colonel du GIGN, l'intervention rare. Je sais plus comment on dit. À cette époque, c'était un chrétien, le colonel. Et je le connaissais parce que j'ai entendu son témoignage, j'ai parlé avec lui, et c'était peut-être le seul que je connaissais dans le lot de tout le monde. Et puis je le vois. Alors je veux lui faire signe de la tête. Et au moment où je le regarde, pouf, il tombe. J'ai dit, même GIGN, il est ratatiné. Je dis, waouh. Puis je descends et j'avais peu de probabilité d'être à côté de Reynard Bonquet. Et vous savez, on m'a mis juste à côté de lui. Juste, alors là, j'étais le plus heureux des hommes, j'étais à côté de Reynard Bonquet. J'avais ce que j'ai demandé à Dieu, quoi. Il aime faire des petits cadeaux comme ça, vous savez. C'est pas forcément des... Même des petites choses qui nous touchent et qu'on aime. Il aime faire des cadeaux comme ça. Il est comme ça avec moi, roi. Mais en tout cas, avec tout le monde, j'en suis sûr. Mais il faut l'expérimenter. Et puis, je vais et je regardais Reynard Bonquet faire. Puis je faisais comme lui. Je dis, ça doit marcher comme ça. Et puis, en fait, les gens étaient guéris. J'ai dit, ça marche. J'ai vu un enfant, il avait une colonne vertébrale vraiment mal, il se tenait très mal. Et puis, je mets ma main sur lui, sa colonne vertébrale s'est redressée. Je dis, waouh, je crois que je bénéficiais de son onction. Mais enfin, en tout cas, j'étais là. Puis, ça, c'est l'histoire d'avant. Puis, voilà, midi, midi et demi, tous les orateurs vont manger. Mais moi, je ne fais pas partie d'eux. Donc, moi, j'avais même pas faim parce que je voulais remercier le Seigneur d'avoir été à côté de Reynard Bonquet, quoi. Juste ça. Merci Seigneur, c'est vraiment un cadeau que tu m'as fait. Et puis c'est tout, j'avais plus faim, j'étais nourri là, quoi. Et puis, d'un seul coup, voilà qu'un couple arrive vers moi. Je ne sais pas s'il y en a ici, un couple de Burkinabés. Vous savez, Burkina Faso. Il y en a qui sont là, là-bas. Oh, il y en a, tu vois, voilà. Et puis, en fait, ils arrivent et ils avaient un bébé dans leurs bras. Et le bébé venait de mourir. Il venait voir Reynard Bonquet, le bébé vient de mourir. Les Africains, ils aiment beaucoup Reynard Bonquet. Enfin, il n'est plus là, il est mort maintenant, Reynard Bonquet, mais il l'aimait beaucoup. Alors, ils viennent avec le bébé mort, mais c'est horrible ce truc, un bébé, un nourrisson qui meurt. ils me le mettent dans les bras comme ça, parce qu'ils croyaient que j'étais avec l'équipe de Reynard Banquet. Mais moi, j'étais pas avec l'équipe de Reynard Banquet. C'est le hasard des choses, je me suis retrouvé là. Mais je fais pas partie de cette équipe avec lui. Mais les gens, ils m'ont vu à côté, donc ils ont vu qu'il y avait plus que moi dans la salle. Donc, ils m'ont mis le bébé. Mais là, j'ai commencé à sangloter en moi. Enfin, j'étais ému de voir un bébé mort. C'est terrible, 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 terrible. Et vous le voyez, c'est, ça fait mal. Bon, ça me retournait complètement. J'ai rempli de compassion, j'ai pleuré avec eux. Et je savais pas quoi faire. Et j'ai appelé Reynard Banquet fort. Mais lui, il mangeait, il n'était pas là, il m'entendait pas, quoi. Et c'est un Jésus qui dit, c'est toi qui vas prier. Tu te rappelles l'oiseau? Oui, mais c'est pas un oiseau, Seigneur, t'as vu? J'ai même un enfant, quoi. Et je dis, quand même. Et puis, je prends le bébé et j'ai fait comme l'oiseau. Mais là, j'ai levé le bébé. J'ai dit, Seigneur, c'est pas juste que le bébé soit mort. Redonne-lui la vie. Et à ces moments-là, le souffle de vie est redescendu dans le bébé. Et c'est pour ça que je peux dire maintenant, quand un enfant naît, le souffle, c'est le souffle de Dieu qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Hein. Moi, j'ai vu la preuve là. Le souffle de vie est arrivé dans le bébé et il s'est mis à hurler le bébé comme une naissance. Et puis, je ne savais plus quoi faire avec le bébé. J'avais peur de le faire tomber. Je me suis dit, oh, ça ne serait pas le moment quand même. Alors, je l'ai mis dans les bras de la maman, puis je lui ai dit, allez lui donner à manger. Elle m'a regardé, vous n'avez pas vu ce que vous avez fait? Oh, non, va lui donner à manger. Et puis, mais elle dit, c'est pas possible, il est malade cet homme-là. Il ne s'est même pas rendu compte que Dieu a fait un miracle avec lui, quoi. Et c'était ça dans sa tête. Alors, moi, je remerciais Dieu, puis c'est tout. Puis d'un seul coup, ah là là, je ne sais pas si c'est pareil par ici, ils sont allés chercher tous les amis africains. Ils sont allés dans la ville et chercher tous les Africains qui répliquent. Mon bébé était mort, il est ressuscité. Alors ils viennent, puis ils veulent tous me toucher. Parce qu'ils disent, c'est l'homme qui a ressuscité le bébé. Et puis, ils veulent me toucher, mais il y avait tellement de monde, j'ai paniqué, je vous promets. Je suis parti en courant, j'ai failli tomber des escaliers. Et puis, je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré, ça faisait boum, la roue comme ça, tellement j'avais peur. Je suis jamais revenu de l'après-midi. En fait, j'ai pas revu Reynard Banquet. Mais pourtant, Dieu voulait m'apprendre quelque chose. Vous comprenez? Il voulait me dire, mais c'est le même esprit qui est en toi, qui est en lui. Arrête d'idolâtrer ce bonhomme, quoi. C'est mon enfant, mais toi aussi, tu as mon esprit. Alors, t'as vu, tu peux faire des choses comme lui. Ah, je dis oui, ça remet les idées en place, quoi. Hein. Et je dis, mais c'est vrai, on est simplement les mêmes personnes. Bien sûr que Dieu a donné des onctions différentes, il a donné des dons différents, des ministères, je reconnais ça, tout à fait. Mais à tous ceux qui croient, il a dit, vous prierez pour les malades, ils seront guéris et vous ressusciterez les morts. Tous ceux qui croiraient qu'ils seraient baptisés. Bon, c'est écrit comme ça. Ou alors ils se sont plantés dans les traductions. Bon, il y en a qui ont dit ça, mais c'est faux. C'est une réalité. Même si le français est assez spécial, qu'un même mot veut dire beaucoup de choses, mais n'empêche que c'est bien ce qui est dit. Et moi, j'ai fait la preuve que c'est juste, quoi. Et je crois que Dieu veut nous apprendre à dépendre de lui comme cela, totalement, pour vivre sa puissance. Hervé, il faudrait que tu rachètes le temps. Bon, ça, c'est. Je réponds ce qu'il me dit. Hein. Voilà, il faut que j'arrête de parler, quoi. Oh, ça passe vite, les temps. En tout cas, voilà, ça c'est une des choses. Demain, on ira un petit peu plus loin. Voilà, mais dans l'eau, hein, jusqu'à plus avoir pied, quoi, pour que vous puissiez aussi vivre ces choses. J'espère que ça vous encourage, mais sachez que ce que Dieu fait avec moi, c'est pas parce que je suis un surhomme, non, du tout. C'est pas parce que je suis un super spirituel, pas du tout. Je passe jamais une heure à genoux devant Dieu, c'est rêvé quand même, mais je passe jamais une minute sans lui aussi non plus, quoi. Parce que si je ne suis pas à genoux, il est toujours là tout le temps. Il ne me laisse pas, comme il l'a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je serai tous les jours avec toi. Et même quand je passe dans la vallée, il est encore là, quoi. Et je crois que Dieu veut vraiment vous apprendre à dépendre de lui dans toutes les circonstances, favorables ou pas. Donc, voilà. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Et je te prie pour que cette parole puisse être vécue par chacun d'entre nous. Que ce ne soit plus une parole qui soit juste un mot, ou que ce soit une prédication d'un moment qui nous fait du bien sur la surface et qui ne nous change pas. Mais toi, tu veux qu'on soit changé, Seigneur. Et je te prie pour que chacun puisse rentrer dans tous les projets que Dieu a voulu pour eux et qu'on puisse être bousculé encore dans tous nos raisonnements, peut-être pour revivre ce que Dieu voudrait, peut-être faire tomber nos clivages, faire tomber nos raisonnements, nos habitudes, nos vieilles habitudes, pour pouvoir rentrer dans cette intimité avec lui. Je suis sûr qu'alors, Seigneur, ton Église va se multiplier. Et puis, je suis sûr qu'il va se passer plein de choses. Et puis, à Rennes, ben voilà, tu as certainement des choses à vouloir faire à Rennes, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent et tellement d'interpellations dans plusieurs églises tellement différentes. Mais tu vois, Seigneur, que tu es là et que tu veux agir. Alors, moi, je crois que chacun de tes enfants a une part importante à jouer et à manifester. Chacun pour leur part. Même s'ils sont d'une église, East to It ou ailleurs, peu importe. C'est ce que l'Esprit de Dieu va faire au travers d'eux qui est important. Alors, merci, Seigneur. Voilà. Voilà encore. Voilà. Et puis, j'ai fait qu'une page. Mais je parle beaucoup. Cette fois, je m'assois. Ce serait